Vous êtes sur Fred Firm Radio, Bénédicte Pro, aujourd'hui en direct de Paris avec Charles Tesson, délégué général de la Semaine de la Critique, à une semaine du grand rendez-vous cannois. Bonjour Charles.
Bonjour.
Alors ça y est, la sélection a été annoncée, la grille est bouclée et cette 54e semaine de la critique s'annonce fraîche et pleine de souffle. Son affiche en témoigne, celle de la 53e était toujours une femme, toujours tournée vers la mer, mais très rouge et sensuelle, et celle-ci est bleue et jeune.
C'est-à-dire que l'affiche, on essaye de prendre un film de l'édition précédente, que ça renvoie à un film en particulier, c'est un élément secondaire mais important, parce que c'est aussi une jeune actrice qui est Lou Delage ici, qu'on met en avant. Et je pense qu'aussi dans le jeune cinéma, il y a aussi des jeunes comédiens et on les révèle en plus des films et avec les films. Puis surtout, ce qu'on aime dans l'affiche, c'est qu'elle, sans avoir à commenter, elle exprime un peu ce qu'on essaye de faire ou d'être plutôt. Et là, je trouve que l'appel du large, embrasser, affronter ce qui vient en face et se lancer dans l'aventure et y aller, la découverte et tout, je trouvais qu'il y avait une belle énergie dans ce geste qui vient donc du film de Respire de Mélanie Laurent qui était en sélection en dernier. Donc je trouve que ça lance bien.
Et en même temps, ça traduit une humeur. Comment vous décririez l'humeur de la sélection de cette année et peut-être aussi de l'ensemble des films qui vous ont été proposés pour faire cette sélection?
Alors, il y a l'humeur, elle est variable. Il peut y avoir des films sombres et durs qui peuvent nous rendre heureux parce qu'ils sont très beaux et très forts. Et puis après, il y a l'humeur du monde tel qu'il est restitué par le cinéma qui est une autre chose aussi. En même temps, je trouve que j'ai vu moins de films sombres ou violents et durs que peut-être par le passé. Sauf peut-être le coréen qu'on a pris, Coin Locker Girl, qui est un polar à la coréenne, qui est assez dur et brutal, mais avec un effet de genre très intéressant. Et en plus, c'est intéressant parce que ça met en présence deux personnages féminins. C'est une sorte de mom, une ogresse qui exploite des enfants pour les faire la mendicité dans la rue. Et la jeune fille se rebelle contre la mère ogresse. Donc ce côté relation entre deux femmes est vraiment très intéressant. Non, sur le film, je trouve qu'il y a des pays où on reçoit moins de films. L'Asie, par exemple, il y a le sentiment que... Parce qu'il y a beaucoup de films asiatiques... À Cannes, on dit, mais c'est Wu Xiaoxian, c'est Kyoshi Kurosawa, c'est Naomi Kawase. Mais au niveau, nous, des premiers, deuxièmes, il n'y a pas de vraie relève, quoi. Mm-hmm. Je trouve que c'est un petit peu inquiétant, j'espère que ça va changer.
Pour choisir ces 7 longs métrages, combien en avez-vous vu?
À peu près 1100 films. Mm-hmm. Pour en choisir 11, donc c'est-à-dire 1 sur 100.
Et parmi ces 11 films, 7 sont en compétition internationale. Ils vont être départagés par un jury présidé par la réalisatrice et actrice israélienne Ronit Elkabetz. Et donc, parmi d'ailleurs ces films, 6 sont des premiers films. Parlez-nous un peu de cette sélection.
Oui, vous avez raison, sur les 7 films, il y en a 6 premiers. Et puis sur l'ensemble de toute la sélection, il y a 9 premiers longs-métrages sur 11 qui sont des premiers. Donc cette année, c'est plutôt encourageant parce que ça veut dire que la qualité égale, très souvent on a préféré prendre des premiers films, mais ça veut dire qu'il y a quand même de la qualité là. Sur la compétition, elle répond à plusieurs éléments. Le seul deuxième film qu'il y a, c'est le film de Santiago Mitre, qui est un cinéaste argentin. Donc c'est son première fois qu'il vient à Cannes avec son second, qui est Paulina, qui continue l'esprit du premier sur la politique. Sauf que là, c'est sur une femme qui a des idées politiques qui lui sont propres et qui est confrontée à une réalité qui la déstabilise et qui essaye, malgré cette réalité qui la déstabilise, de vivre conformément à son idéal et son idée. C'est une histoire assez insensée, très forte, sur justement cette idée d'aller jusqu'au bout de son engagement, quitte à s'isoler de tout le monde et de passer pour une folle et une femme insensée. C'est assez fort.
En parlant de femme et d'isolement, il y aura un film qui se passe dans un salon de coiffure.
Ah oui, j'aime beaucoup ça. Oui, c'est le film des frères Abou Nasser qui sont de Gaza. Et j'aime beaucoup parce que vous savez, quand on voit beaucoup de films de tout le monde, du monde entier, il y a beaucoup de films qui donnent du pays l'image qu'on attend d'eux et qui la conforment, la confortent, la consolident, ce qui est bien aussi. Mais là, on se dit Gaza, les missiles, Israël, les tunnels, le Hamas. Et le film prend le contre-pied de ça. Les hommes sont hors chambre, on entend le bruit de la guerre dehors, et tout se passe dans un salon de coiffure entre femmes. Donc l'idée du point de vue féminin, le quotidien par rapport au monde des hommes, et tout, je trouve ça vraiment formidable comme contre-proposition. Et puis, c'est pas du tout réaliste, mais ça dit une réalité de Gaza qui est celle non pas de la promiscuité, mais de l'asphyxie, quoi. Donc c'est vraiment un film très étonnant et très culotté et assez réjouissant. Ouais.
Dans quel autre contexte un peu inconnu de nous va-t-on pouvoir voyager ?
Il y a le film colombien, La Sierra et la Tierra et la Sombra, qui est très très beau parce que ça se passe dans le monde de la canne à sucre, dans une plantation. Et c'est un drame familial entre l'enfant qui est le fils qui est malade et qui hésite à partir et qui veut pas partir justement qu'il devrait. On se croira au 19e siècle, au temps de l'esclavage encore, avec tous les gens qui travaillent. Et c'est vraiment très très beau et très très fort. Il y a un film que j'aime beaucoup aussi, c'est le film de Jonas Carpigliano, qui est un cinéaste italien, qui avait fait un cours qu'il avait le prix l'an dernier à la semaine, parmi les courts-métrages, qui s'appelle Méditerranéen, qui parle aussi de l'immigration des Africains qui viennent en Italie. Mais ce qui l'intéresse, c'est le moment où l'Italie entre dans le film. Et surtout, il met deux types de personnages que je trouve très intéressants et nouveaux, parce qu'il y a celui qui est prêt à tout accepter dans les conditions de travail, de vie, pour avoir des papiers, une vie normale, si je puis dire, pour faire venir sa famille. Puis il y a quelqu'un qui est un rebelle et qui refuse cette sorte d'esclavage moderne. Et je trouve que la relation entre les deux personnages est vraiment très très intéressante. Mmh. Il y a le film français aussi de la compétition.
Avec Jérémy Régnier.
Oui, qui est un film, je trouve, très très étonnant parce que Clément Cogitor vient de l'art vidéo et de l'art plastique. Et c'est un film de guerre sur des soldats français à la fin de la mission en Afghanistan qui sont confrontés à des disparitions étranges. Donc c'est un vrai film de guerre. C'est un film qui parle aussi de c'est quoi, qu'est-ce que la France doit faire là-bas et quel est son rôle par rapport à ce que dit un enfant à un moment donné. Vous êtes sur la terre d'Allah ici. Et ça pose plein de questions autour justement de la fois de la réalité de guerre terrestre et puis la question de la conviction, de la foi et de la croyance de l'autre. Donc c'est quelque chose qui résonne.
Avant de revenir sur les films français et la présence française à la semaine, il ne faut pas oublier qu'on a aussi des films d'outre-Atlantique, puisqu'il y a un film américain et un film canadien dans la sélection.
C'est vrai que sur les 7 films de la compétition, on a quand même 4 films d'Amérique. Il y a un film de Canada anglophone, Toronto, qui s'appelle Sleeping Giant, qui est un très très beau film, sur 3 ados en vacances dans une région des Grands Lacs. Et ce que j'aime beaucoup, c'est comment il met en la démarcation sociale de leurs milieux différents. Comment l'enfant de bonne famille, introverti, déçu par le monde de ses parents, il est attiré par l'autre et toutes les relations entre les trois par rapport au monde des adultes et ce qu'il peut représenter à leur âge, c'est vraiment très très beau et très très bien fait. Mm-hmm. Et il y a Krisha qui est un film très étonnant parce que c'est un peu, comment dire, un peu caouette par rapport à la figure maternelle et puis Cassavetes, mais c'est un film un peu vitriolesque, si je puis dire, sur une fête de famille aux États-Unis, Thanksgiving, la dinde, mm-hmm. et comment il y a une femme qui arrive là. Et on voit qu'elle n'est pas de ce monde-là et ne pourra jamais s'y faire et réciproquement. C'est assez culotté, assez réjouissant.
Est-ce que vous pensez parmi des films que certains créeront la surprise ?
Peut-être Krisha, c'est un film qui va diviser, je pense. L'autre, je pense qu'il va surprendre, c'est dégrader aussi le Palestinien.
Le public français, en tout cas, pourrait reconnaître avec plaisir le visage d'Iyam Abbas. Mais oui. Ce n'est pas le seul visage qu'il pourra reconnaître dans cette sélection, puisque vous avez quand même choisi pour l'ouverture un premier film d'Elie Wajman, Les Anarchistes, avec Adèle Exarchopoulos, avec Tahar Rahim. Et puis, donc pour la clôture, une découverte, par contre. Et entre les deux, il y aura le premier film de Lou Garrel, tandis que Le Papa est à la quinzaine.
Oui, c'est drôle, parce que Philippe Garrel a eu 2 films, la semaine à critique, dans les années 60, et tout d'un coup le fils revient aujourd'hui au moment où le père est à l'ouverture de la quinzaine. Je trouve ça assez joli, assez touchant. Oui, sur le premier, Les Anarchistes, c'est une ouverture. C'est vrai que nous, on s'arrête au deuxième film, on en prend au premier, deuxième. Donc du deuxième film, on attend quelque chose par rapport au premier. Là, j'aime beaucoup, c'est qu'il part sur un film historique, Les Anarchistes, fin du 19e siècle, film à costume. Donc il y a un défi, une ambition par rapport au premier, et j'aime beaucoup ça. Et ce qui nous a beaucoup plu dans le film, c'est non seulement parce qu'il y a une très belle histoire d'amour, mais c'est aussi, on a vu beaucoup de sujets là-dessus, sur des enfants orphelins, par rapport à la perte du père, ou la quête de l'image perdue du père, qui ont besoin de famille ou de communauté. C'est un peu le sujet du film. Mais ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'il est très contemporain. Ça, c'est un film qui tombe très bien dans la réalité d'aujourd'hui et le sentiment d'une certaine jeunesse de beaucoup de gens sur le politique d'aujourd'hui, les finances, la banque, etc. Et je trouve que c'est un film qui résonne très bien. Il vient au bon moment, quoi. Le dernier, c'est le film de Mathieu Vatpied qui a fait des courts-métrages, qui est un chef opérateur. Il a fait la photo des Intouchables, de Battre mon cœur, c'est d'arrêter, de Jacques Audiard. C'est un conte immoral et moral en même temps. sur deux gamins de cité, banlieue, qui sont pas spécialement bons à l'école, mais qui tout d'un coup découvrent les joies d'une pratique illicite et lucrative. Ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'il fait de l'école une sorte de citadelle de tous les possibles. Donc c'est une sorte de conte moral sur justement la question de l'école aujourd'hui à travers deux gamins de 8-10 ans qui sont absolument formidables.
C'est toujours bien de terminer comme ça. Et il y a aussi deux amis là aussi.
Mais c'est une très bonne surprise. Oui, ils sont trois, mais c'est deux. Mais c'est le titre. Le film porte bien son titre parce que c'est il y a deux garçons. Louis Garrel lui-même qui joue le rôle du Don Juan qui vient aider un amoureux transi qui ne sait pas trouver les bonnes clés, qui est Vincent Macaigne, par rapport à une jeune fille qui vend de la nourriture dans la gare du Nord, Goldshifter Farani. Et je trouve que je trouve que j'aime beaucoup le film parce qu'il trouve sa musique et son ton. Parce qu'il y a bien sûr des clins d'œil à son père, à Bertolucci où il a joué. On en trouve plein dans le film, mais c'est pas du tout un jeu de piste où il sème des petits cailloux de référence. C'est un film qui trouve son ton, sa musique, qui est très bien écrit, écrit au terme de scénario, écrit dans les dialogues, extrêmement bien joué. Et puis il y a une mélange de. C'est un film sur l'amitié vraiment. Et comment on peut rompre, qu'est-ce que c'est perdre un ami et pourquoi. Donc là-dessus, le film est remarquablement écrit, très drôle et vraiment très belle réussite, très belle réussite.
Et ça correspond bien sûr à la volonté de la semaine de faire le pari de la jeunesse, donc on voit bien dans cette affiche, mais que vous exprimez aussi à travers des programmes comme Next Step, ouais. Par exemple.
Oui, alors Next Step, c'est une chose très importante. La première édition a lieu l'an dernier. Ce qu'on offre à tous les réalisateurs de courts-métrages du monde entier, il y en a 10 en compétition, c'est de... Ben parce qu'on a remarqué que ceux qui font du court-métrage, ils font des premiers films après, c'est une palissade.
Ils reviennent
même. Par exemple, Justin Kurzel a eu un court-métrage à la semaine, il a eu son premier long-métrage à la semaine, et Crime de Snowtown, et puis Macbeth est en compétition cette année. Donc on s'est dit que ce serait de pouvoir offrir aux 10 réalisateurs une sorte d'atelier qui n'est pas comment écrire un scénario, c'est pas notre travail, mais un peu de conseils avec des experts, des consultants, réalisateurs, distributeurs, vendeurs, scénaristes, pour les aider à réfléchir à que faire par rapport à un premier film, etc., etc. L'autre aspect aussi, c'est que c'est de, le CNC nous soutient dans ce projet, c'est aussi de permettre, parce que vous savez que chaque année à Cannes, et à la semaine pareil, il y a pas seulement les 4 films français 100% français, mais il y a aussi des producteurs français, des productions minoritaires où la France intervient. C'est le cas de Méditerranéa, c'est le cas de Dégradé, c'est le cas de Paulina et c'est le cas de Nia Sierra et la Siomora. Donc c'est de permettre aussi à tous ces producteurs-là qui sont des voyageurs, qui vont tourner qui vont en Géorgie, partout, en Afrique latine, de pouvoir s'attacher aussi à une nouvelle génération de cinéastes qui pourraient accompagner en tant que coproduction. Donc on a fait ça l'an dernier, Jonas Capigliano en faisait partie et cette année il a son premier long.
Merci Charles Tesson de m'avoir accordé cette interview.
Merci beaucoup, merci.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.